Bienvenue sur cette antenne. Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur cette antenne ou bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'Agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue pour cette nouvelle édition de Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Jackie Moubedi d'ADRA Europe en ligne. Bonjour Jackie.
Bonjour Oscar.
Alors je rappelle que ADRA, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui, Jackie, vous allez nous parler du travail qui est nécessaire de faire pour pouvoir être présent sur le terrain. Et ce travail, c'est ce qu'on appelle en anglais « advocacy » ou en français « plaidoyer ». Vous pouvez nous dire de quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand on parle de ces termes-là, de plaidoyer ?
Alors c'est plaider comme quand un avocat fait son plaidoyer, et c'est vraiment pour une cause, et une cause qui est juste. C'est ce que, en fait, une des grandes actions de ADRA maintenant, c'est on travaille sur le terrain, mais pour pouvoir arriver sur le terrain, il y a tout un travail qui est là, qui se fait avec les institutions, avec les partenaires, pour les mobiliser autour de quelque chose qui fait sens et qui, enfin, pour nous, évidemment, l'aide humanitaire dans chaque pays avec les besoins, c'est vraiment ce travail de collaboration.
Et donc, ADRA Europe plaide pour un monde plus juste, c'est ça?
Exactement, c'est pour un monde plus juste. Et on a eu, par exemple, la campagne de Chaque enfant partout à l'école, où on a vraiment crier sur tout le toit, on peut dire comme ça, oui. Signer, faites signer vos amis, etc.
Vous aviez lancé une grande pétition, hein.
Exactement, oui. La très grande pétition qui a été vraiment un vrai succès. Donc ça, c'est une partie d'une campagne de plaidoyer. Et aussi, il y a une autre manière de faire, qui est aussi de toujours plaider en faveur d'une cause juste, mais plus en silence, parce que le terrain est fragile, parce que la situation est compliquée. Et donc, voilà, ça va, c'est aussi une autre manière de plaider, mais plus dans l'ombre.
Donc, en souterrain. Donc, plaidoyer, oui. en souterrain pour pouvoir intervenir et mener des actions sur le terrain, en réalité.
Oui, tout à fait. C'est toujours la même chose. Donc, on défend toujours une cause. Mais là, comme ce sont dans des situations fragiles, on va vraiment privilégier la sécurité des personnes qui sont au service. On va pas mettre en danger, par exemple, dans un pays où la situation politique est compliquée. On va pas aller crier tout haut ce que nous faisons. Voilà, on communique de façon claire, mais on va communiquer aussi d'une autre manière. Et surtout, on va pas s'ingérer dans des déclarations politiques qui n'aideraient en rien les bénéficiaires.
Et alors donc, c'est le cas notamment dans la situation qui se déroule en ce moment entre la Pologne et la Biélorussie.
C'est une situation qui est vraiment compliquée. Les pays sont vraiment prêts à aider. Mais voilà, c'est dans l'actualité. Du côté de la frontière polonaise, par exemple, c'est impossible d'accéder au-delà de 3 kilomètres de la frontière. Donc, il n'y a aucune organisation qui peut arriver là-bas, aucun journaliste. Ils ont vraiment fait ce blocage parce que, en réponse, on va dire, à ce qu'il y a de l'autre côté. Mais les ADRA, les bureaux ADRA, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sont prêts à travailler avec le personnel et le membre, et ils mettent déjà de toute façon des actions en place. Même dans cette situation difficile, il y a déjà des appels aux dons, il y a déjà plusieurs choses qui sont mises en place pour venir quand même en aide aux personnes.
Alors, vous pouvez nous rappeler en quelques mots la situation justement qui est préoccupante entre la Pologne et la Biélorussie?
Des réfugiés ou des migrants sont envoyés à la frontière, donc on les sort de la Biélorussie. Et on leur dit, voilà, partez et traversez en Pologne, et là, vous serez dans l'Union européenne. Et donc, ceux qui ne peuvent pas, ils essayent, mais dès qu'ils arrivent, il y a tout leur réseau qui leur disent, retournez d'où vous venez. La situation est vraiment très tendue. Il y a des enfants, il y a des femmes, il fait froid. C'est vraiment une situation très compliquée.
Une autre situation très compliquée aussi, c'est celle au Yémen, avec la guerre qui s'y déroule.
Alors là, c'est vraiment voilà, une situation qui est fragile aussi, qui est chaotique. Et comme je disais, c'est vraiment une autre manière de plaider. On n'attaque pas de front, on ne va pas crier sur tous les toits que la situation doit changer, mais on travaille avec les personnes en place. Donc, on va travailler soit au niveau de la commune, soit au niveau de la province, mais en tout cas avec les personnes habilitées à donner des autorisations pour que le travail puisse arriver aux bénéficiaires.
Quel type de travail, Jackie Moubedi, justement, vous mettez en place au Yémen?
Avec la collaboration, par exemple, des Nations Unies, il y a eu un puits qui a été forêt pour avoir de l'eau de source pour 5000 personnes. Et c'est dans une ville qui s'appelle Alta Alap. Et ce puits va utiliser la force solaire pour fonctionner, parce que c'est vraiment un énorme projet, un énorme puits, et qui va aussi aider pas les personnes qui sont directement autour, mais dans les communes avoisinantes. Il y a aussi quelque chose qui a été fait en collaboration toujours avec d'autres organisations. On a amené du matériel médical pour plus ou moins 50 hôpitaux. C'est pour aider la population. On compte 985 000 personnes. Mais à côté de ça, évidemment, on travaille toujours dans l'agriculture, on travaille toujours pour aider les personnes qui ont des dons à les développer et à être au service d'une communauté.
Encore une autre situation compliquée, hein, c'est celle de l'Afghanistan. Vous êtes présent aussi en Afghanistan et vous intervenez, Jackie Moubedi.
Et oui, la situation est vraiment très compliquée. Il y a une insécurité. C'est vraiment le maître mot là-bas quand on plaide pour une cause comme celle-là, c'est la sécurité et la sécurité des personnes, que ce soit donc les gens qui travaillent dans les organisations humanitaires, que ce soit les gens qui vont recevoir cette aide, évidemment, ou les personnes qu'on enverrait éventuellement en soutien sur place. C'est aussi un travail qui se fait avec les autorités qui sont en place. Et donc, c'est vraiment un travail en partenariat, mais avec les pouvoirs qui sont sur place, et à savoir aussi les personnes qui ont été évacuées lors de cette première vague. Plusieurs sont partis, il y en a quelques-unes aux États-Unis, mais il y en a aussi en Europe, et notamment en Albanie, en Serbie et en Grèce, pour donner une nouvelle terre de sécurité, en fait, et un nouveau départ.
Alors, Jackie Moubedi, vous nous avez parlé là de trois exemples parmi d'autres. La liste, évidemment, peut être plus longue, peut s'allonger.
Oui, tout à fait. C'est vrai.
Il était important aujourd'hui de rappeler que l'aide humanitaire doit parfois se faire d'une manière souterraine, se faire très discrète pour que l'action sur le terrain puisse avoir lieu.
Plusieurs personnes se posent parfois les questions en disant « mais on vous entend pas, que faites-vous par rapport à cette situation ?» Et donc c'est vraiment travailler aussi en collaboration parfois avec d'autres organisations confessionnelles, d'autres organisations humanitaires, mais c'est vraiment pour donner du courage aux personnes qui sont, on va dire, dans une situation délicate, leur donner du courage et aussi tenir ferme sans dire partout qu'on est en train de faire quelque chose dans tel ou tel endroit pour améliorer la situation. On peut aussi crier crier de manière silencieuse.
Merci beaucoup, Jacky Moubedi, d'être intervenu aujourd'hui au micro de Paroles Solidaires et de nous avoir relaté ces faits et ces actions que vous menez sur le terrain, qui sont très importantes selon les cas, bien sûr. Oui. Nous pouvons aussi consulter ces différentes actions que vous mettez en place en oui. consultant votre site internet adra.eu. Oui. Et là, il y a un exemple justement de campagne que vous avez menée, Chaque enfant partout à l'école, qui a oui. rencontré le succès que vous avez évoqué en début d'émission.
Quand on clique là, on arrive sur la page et on peut choisir la langue dans laquelle on souhaite avoir l'information.
Merci beaucoup, Jacky Moubedi. C'était donc Paroles Solidaires, une émission sur les solidarités internationales. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000, appel gratuit, ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Shall not be a master, because
you are not under law,
but under grace.
What then
shall we sin, because we are not under law, but under grace? Oh,
what then
shall we sin, because we are not under law, but under grace?
By no means.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la Voix de l'Espérance et vous êtes en compagnie d'Oscar Miani. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de nous adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77 193 Damary-Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire.
Alors quand j'étais petite, mon rêve était de devenir éducatrice spécialisée, d'être à côté de jeunes en difficulté ou d'adultes en difficulté. Ça, c'était mon rêve. Je n'ai jamais imaginé que j'allais être atteinte d'un cancer, surtout qu'en plus, dans ma famille, il n'y a pas du tout d'antécédent. Donc vraiment, non, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que c'était fait pour les autres, mais très certainement pas pour moi.
C'est vous l'histoire vous présente Agnès Baroncini. Cette Française d'une quarantaine d'années affiche un sourire sans limite. Au-delà d'un parcours atypique, elle est aussi une femme éprouvée dans sa santé. Elle le raconte du reste dans Mon cancer, entre combat et découverte, un livre paru aux éditions BLF Europe. Un livre, c'est bien, mais au micro, c'est encore mieux. François Sergi l'a rencontrée. Mais avant d'en découvrir plus, un mot sur sa maladie. Elle souffre d'une forme de cancer très rare. Seuls 15 cas sont référencés dans le monde. Alors, un cas désespéré, Agnès Baroncini ?
Vous vous êtes posé des questions que tout le monde se pose aussi à cette occasion, et notamment pourquoi moi ?
Ah oui, ça a été la question quand je suis sortie de la clinique et que je rejoins une amie pour ma convalescence. Je crois que la première chose que je lui ai dite quand je suis arrivée, je suis tombée dans ses bras en pleurant, et ça a été un cri. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Qu'ai-je fait pour que cela m'arrive ? Ah oui, ça a été la question au départ, oui.
Et alors, elle a eu le courage, je dirais, elle a osé vous renvoyer une autre question.
Hein. Et ça a été terrible, parce que nous avons un peu discuté, et au bout de quelques minutes de discussion, elle me regarde et elle me dit « Mais pourquoi pas toi, au fait ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi toi, tu serais plus épargné que quelqu'un d'autre ?»
Ça, cette question-là, on ne se la pose pas. Hein.
Ah oui, et ça, on ne se la pose pas. Et j'étais, mais je dois dire, sidérée et sans voix pendant un instant. Et ça a permis, alors après, on en a bien entendu discuté, et ça a permis de faire une réflexion là-dessus. Et de me dire, mais pourquoi ? Qu'est-ce que moi, Agnès Baroncini, j'ai comme légitimité de dire, ah ben non, je n'ai pas besoin d'avoir cette maladie, ou j'ai ma vie qui fait qu'en sorte, pourquoi je n'ai rien fait pour être atteinte de cette maladie ? Oui, c'est une sacrée question.
Il y a un avant et un après ?
Oui, un avant. Le après n'est venu qu'au fur et à mesure des semaines. Hein. Ce n'est pas tout de suite un avant, un après. Là, je me suis rendu compte que ça remettait ma vie totalement en question. Que ce soit ma vie professionnelle, que ce soit mon état physique avec ma vitalité et tout ce que j'étais capable de faire, qu'aujourd'hui je ne peux plus faire. Et ça a été aussi ma vie avec le Seigneur. Je veux dire, j'étais chrétienne avant d'être touchée par la maladie, mais je dirais que j'avais peut-être une relation avec le Seigneur qui était ce qu'elle était, hein, mais très certainement pas aussi profonde et aussi intime que ce que j'ai pu avoir pendant toute cette traversée. Et donc le après, c'est plus du tout pareil, quoi. La relation
après, ça aurait pu être sans le Seigneur. Enfin, ça aurait pu casser la relation.
Ça aurait pu casser la relation, et là, ça l'a renforcé, et ça a donné une intimité avec le Seigneur où vraiment j'ai envie presque de dire merci Seigneur d'avoir permis à ce que je traverse cette épreuve. Pas bien entendu, je crois qu'il faut bien me comprendre, hein, il ne faut pas chercher la maladie pour la chercher.
Si c'était à refaire,
non. Voilà, non, il ne faut pas rechercher l'épreuve ou la maladie pour ça. Mais elle m'a ouvert les yeux et elle m'a permis vraiment d'avoir cette intimité que je n'avais pas avec le Seigneur avant, oui.
Comment est-ce que vous avez pu accéder à cette intimité au sein même,
alors,
au sein même de cette épreuve ?
D'abord par la colère. Et par ce sentiment d'injustice que je pouvais vivre. Ça a été, entre guillemets, les coups de gueule contre Dieu, quoi. Et petit à petit, le Seigneur est venu me retrouver là où j'étais. Il m'a dit, moi, je comprends ta colère. Mais il m'a dit, mais si tu restes sur ta colère, tu t'en sortiras pas. Voilà. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, je serai avec toi pendant toute la maladie. Et là, je dis, d'accord, Seigneur, je te fais confiance.
On le sait, un cancer se traite à coups de chimiothérapie éprouvante pour le corps et pour le moral. Agnès est passée par des séries de perfusions de 5 heures sur 3 jours pendant 3 mois. Puis est venue la rémission, à laquelle a succédé une récidive. Agnès a alors cessé de se demander pourquoi elle, mais pourquoi, en deux mots, autrement dit, à quoi ce cancer allait-il servir ?
Alors là aussi, je n'ai pas eu la réponse immédiatement, hein. C'est un cheminement qui s'est fait. Je dirais que la première chose, je pense, que le Seigneur a voulu me montrer par là, c'est que quand nous sommes faibles, c'est là que nous devenons forts. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Cette force et cette volonté d'aller en avant, cette force de garder les yeux tournés sur lui, la force de voir un avenir. Avant le cancer et dans ma première partie de vie chrétienne, il y a une chose que je déplorais, c'est que je ne savais pas témoigner. Et quand je vois que le Seigneur, la manière dont il m'a utilisé à travers l'écriture de ce livre, ça a été une réponse extraordinaire.
Alors qu'on comprenne bien, c'est pas Dieu qui a provoqué cette maladie pour en vue de ça.
Non, pas du tout.
Il n'est pas responsable.
Il n'est absolument pas responsable. Mais le Seigneur utilise toute situation.
D'accord.
Et dans cette situation, il a permis que des choses se mettent en place.
Moi, je change un mal en un bien, comme il est dit.
Il utilise, et du coup, si déjà, à la limite, j'ai envie de dire, si déjà tu traverses la maladie, voyons ce qu'on peut en faire, puisque déjà, voilà, c'est comme ça. Enfin, il y a eu plein de choses qui se sont mises en place, et aujourd'hui, témoigner n'est plus pour moi un poids comme j'avais, où je me sentais tiède, où je me sentais pas capable. Parce que là, j'ai compris que le Seigneur, quand il veut que nous fassions quelque chose pour lui, il nous donne les moyens. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris à travers la maladie, entre autres.
Dans la Bible, il y en a un qui disait « C'est quand je suis faible que je suis fort ». Oui, vous avez bien entendu, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais attention, celui qui parle ainsi, c'est l'apôtre Paul, et il tire sa force de plus haut et de plus grand que lui, de ce Dieu qui un jour lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Tout un programme, n'est-ce pas? Mais petite question légitime de la part d'Agnès, et si elle voulait la guérison?
Je crois que c'est légitime de dire « Écoute Seigneur, si tu peux me guérir, ce serait très bien ». Voilà. Mais très vite, je me suis dit « Mais que ta volonté soit faite ». Et aujourd'hui, je ne sais pas si je suis guérie en rémission totale, c'est beaucoup trop tôt pour le dire.
Et il y a un traitement toujours?
Non.
Non.
Pour le moment, il n'y a pas de traitement. Il y a juste un suivi très strict, quoi.
Il n'y a pas de traitement préventif à faire, en fait.
Non, là, il faut attendre. Il faut attendre de voir.
Donc, en fait, la récidive, elle est...
Elle peut arriver à n'importe quel moment, quoi.
Donc, ou pas.
Mais elle peut arriver ou pas. Mais ça, personne ne le sait. Mais je sais aussi que si je dois repasser par là, je sais que le Seigneur sera toujours à côté de moi.
Puis vous dites dans votre ouvrage que la guérison physique, c'est pas l'essentiel pour vous.
Tout à fait. D'abord, la guérison physique, c'est bien. Je crois qu'il faut pas, si on peut être guéri, c'est très bien. Il m'a d'abord guéri sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel. Là, il y a eu des guérisons qui ont été faites pendant cette période-là. Et la deuxième chose, c'est que effectivement, si la guérison physique ne se fait pas, je sais aussi et j'ai cette espérance d'être auprès du Seigneur après la mort. Et ça, pour moi, c'est aussi une source de joie. Alors, je crois qu'il faut être clair. Il ne s'agit pas de vouloir la mort pour la mort. Ne soyons pas morbides. J'ai encore plein de projets. J'ai plein de choses à faire.
Cette maladie a été l'occasion de vivre une nouvelle relation aussi à Dieu.
Oui. Mais pas seulement à Dieu. Ça a été vraiment une nouvelle naissance, sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de vivre ma vie professionnelle, parce que j'ai le droit de travailler 8 heures par semaine. Donc j'ai eu un patron qui a accepté de revoir mon poste.
C'est un changement de vie complet.
Un changement de vie complet, un changement de rythme, une possibilité aujourd'hui de faire des choses pour le Seigneur parce que j'ai le temps, alors avant j'avais pas le temps. Des relations avec les autres complètement différentes, l'approche avec les autres complètement différente. Non, c'est un bouleversement total. Il y a vraiment un avant et un après, comme on dit. Là, je peux vous le dire.
Eh bien, merci pour le partage de ce témoignage, qui a d'autant plus de valeur qu'il y a une récidive possible, mais que ça ne vous empêche pas d'avoir le sourire et de croire toujours en la vie et en Dieu.
Tout à fait, et d'avoir des projets, j'ai projet de l'écriture d'un autre livre. Oui, il y en a déjà un que j'attends qu'il soit validé avant d'en parler. Donc voilà, donc ça c'est
une facilité à écrire.
Je me suis découvert ça alors que je ne savais pas que je savais écrire, donc voilà, j'ai bien l'intention d'être là.
Très bien, merci.
Merci à vous.
Je vous rappelle encore le titre de l'ouvrage d'Agnès Baroncini, « Mon cancer, entre combat et découverte » aux éditions BLF Europe. Cette émission vous a été proposée par Radio Réveil. Au plaisir de vous retrouver. À plus.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu? En recherche ? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple, depuis la France. Il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33 1 80 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9 978. Bien entendu, tous ces numéros ne sont absolument pas surtaxés. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste pour votre émission en français La Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour votre nouveau programme. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Au revoir et prenez bien soin de vous.